Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Vous l'avez peut-être entendu, il y a quelque temps, j'ai fait une entrevue avec ma collègue Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans lequel Josée nous parlait de sa sœur qui a une déficience intellectuelle, et à quel point c'est difficile en ce moment avec la COVID, à quel point les ressources sont inexistantes ou manquantes. Ben, après que j'ai fait cette entrevue-là avec Josée, j'ai reçu plusieurs témoignages de gens qui vivent, en effet, qui sont proches aidants ou parents de personnes autistes ou de personnes déficientes intellectuelles qui ont énormément de problèmes à se faire entendre en ce temps de COVID et qui disent ben, « ces personnes-là sont des personnes abandonnées ». Et parmi les lettres que j'ai reçu une lettre de Louise Turcotte. Elle m'écrit en signant « mère et curatrice privée ». Elle est au bout de la ligne. Madame Turcotte, bonjour.
Oui, bonjour.
Madame Turcotte, votre lettre m'a beaucoup touchée, votre courriel m'a beaucoup touchée. Vous nous racontez l'histoire de votre fils qui a 37 ans, qui est sourd et qui est autiste. Ça ressemble quoi à quoi votre quotidien depuis mars 2020, Madame Turcotte?
Ben moi, c'est ça, depuis mars 2020, c'est ça mon quotidien. Quand j'ai su que Sylvain ne pourrait plus sortir de sa résidence, ben moi, j'ai fait des actions, je me suis beaucoup battue, j'ai obtenu des choses, je suis pas la pire des parents là qui a perdu tous ses services, mais j'en ai perdu beaucoup. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas le droit de sortir nos enfants pour un tour d'auto, on avait le droit d'aller marcher avec eux dehors, près de la résidence, on n'avait pas le droit, aucune sortie chez eux, dans leur propre famille, alors qu'on fait attention nous aussi. Fait que c'est ça, moi je me suis battue à coups de plainte, je pense que j'ai fait 4 plaintes, comme ça aux plaintes, j'ai obtenu 2 dérogations. Fait que moi, Sylvain, il peut sortir chez moi, alors que plein de parents qui m'appellent, qui sont découragés, qui ont peur de dénoncer, d'argumenter, puis de se battre, de peur de faire de représailles. Fait que chacun fait ça de façon isolée, puis faut vraiment miser sur la clinique, puis vraiment débattre, puis même ça, on gagne pas nécessairement.
Alors, on peut vous appeler Mère Courage, hein, parce que quand vous dites 4 plaintes, non, mais c'est vrai, Madame Turcotte, parce que je sais que vous enverrez peut-être pas nécessairement des fleurs à vous-même, mais laissez-moi le faire. Moi, je considère que vous êtes une Mère Courage, parce que il faut comprendre le déchirement dès le départ que ça représente pour quelqu'un qui est parent comme vous, de dire, ben, mon enfant, je dois le placer dans une ressource intermédiaire. Donc, en ce moment, enfin, depuis plusieurs années même, votre fils Sylvain, il est dans une RI, donc ressource intermédiaire, et c'est une autre famille que la vôtre qui prend soin de lui, mais la contrepartie de ça, c'est régulièrement, vous pouvez avoir des activités avec lui, vous lui démontrer votre tendresse, lui démontrer que vous êtes là pour lui, et le drame, si je comprends bien, c'est que maintenant, vous ne pouvez plus ou vous pouvez moins lui dire que vous êtes là pour lui.
Ben moi, je peux encore un peu, ben parce que j'ai le droit de sortir, parce que j'ai une dérogation, c'est ça que je veux un peu apporter. J'ai une dérogation du CIUS pour le sortir, ma fin de semaine sur 2, puis c'est ça, de faire attention aux mesures sanitaires, de pas aller dans des lieux publics, rien. Mais moi, je suis dans les exceptions. Moi, ce que je me faisais dire, c'est qu'il y a une poignée de parents qui ont réussi à avoir ça pour leur fils. Puis nos enfants, ils demandent pas grand-chose. Ils demandent un tour d'auto, de venir à la maison, de qu'on commande des repas au restaurant, c'est de faire plaisir. Juste des petites choses de la vie qui ne demandent pas beaucoup. Puis c'est pas eux qui sortent d'un bar, qui vont aller partout.
Non.
Puis on peut. Puis ils sont confinés plus que les autres. Puis ils sont vraiment punis, oubliés, confinés. Ils ont traité les RI qui sont pas nécessairement des grosses résidence intermédiaire, nécessairement. Des fois, ils ont 5, 6, 7 personnes, 8, 9, mais ils ont traité ça comme des CHSLD puis des RPA qui sont des fois des 200, 300. Fait que, ils les ont confinés très, très sévèrement, alors que il aurait pu au moins les laisser aller dans leur famille, ne serait-ce que quelques jours par semaine ou ne serait-ce que pour montrer qu'ils sont encore là, puis ils comprennent pas la situation, eux. C'est quoi la pandémie? C'est abstrait, ça veut rien dire pour eux. Ils comprennent pas, puis on les confine, puis plus que le monde triche, puis qu'ils vont dans les voyages et dans qu'ils font des parties à domicile, ben nous, ça rallonge notre temps de confinement pour nos jeunes autistes. Encore plus.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. Petit peu plus tôt, vous avez parlé des parents, parce que vous avez fait des plaintes, vous en avez fait 4, vous avez obtenu 2 dérogations. Vous dites, c'est pas le cas de tous les parents. Il y a beaucoup de parents qui hésitent parce qu'ils ont peur de représailles. Vous pouvez pas savoir, ça me donne des frissons dans le dos quand j'entends ça, Madame Turcotte, que des gens qui simplement veulent se battre pour donner des petits plaisirs à leurs enfants, qui ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de représailles. Coudonc, c'est donc ben totalitaire dans ce domaine-là.
Ben, c'est ça, mais le monde a peur parce que c'est pas tous les parents qui... beaucoup de parents se battent là au front. Moi, je lis régulièrement des Facebook puis des associations, puis beaucoup de monde se battent, décrivent, dénoncent, mais des fois, on sait pas à quelle porte frapper, puis il y a une technique aussi. Il faut aller vraiment passer par la bonne porte, puis la porte pour les plaintes quand on n'est pas satisfait des services, c'est vraiment la commissaire aux plaintes des CIUS et après ça, le protecteur du citoyen. Mais c'est important de frapper aux bonnes portes. Puis moi, c'est pour ça que hier soir, je recevais un appel d'un parent de Montréal. Elle me dit, vous n'avez pas peur, Mme Turcotte, vous n'avez pas peur de mettre ça dans les journaux? J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai pas peur parce que ils cultivent la peur chez les... Ben, pas qu'ils la cultivent, mais les parents ont peur parce que leur enfant reste dans une aérie. Donc, ils ne sont pas avec eux tout le temps. Donc, ils ne peuvent pas tout savoir ce qui se passe dans les résidences. Puis moi, ce qui m'interpelle encore plus, c'est qu'avant la pandémie, il y avait déjà un nombre réduit de personnel dans les RI. Des fois, c'est 1 pour 9, pour 10, pour 12.
Ouch!
Puis avec les jeunes qui sont confinés à temps complet, le ratio n'a pas changé. Ils sont encore 1 pour 9, pour 10. Puis les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des activités de table, mais aussi ils peuvent rester longtemps assis à rien faire, à perdre tous leurs acquis, leur simulation d'une vie, un combat d'une vie dans le fond, depuis mars 2020. C'est comme ça pour beaucoup, beaucoup de parents. Ça m'interpelle vraiment, ça me...
Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Madame Turcotte, parce que en effet, beaucoup de témoignages de gens, et c'est de ça aussi que j'avais parlé avec José Legault quand j'avais fait l'entrevue avec elle. C'est de ça qu'elle parlait pour sa sœur. C'est qu'il y a une nette régression, c'est-à-dire que c'est tout un groupe de personnes qui, pour qui la moindre stimulation est extrêmement importante. Quelque chose qui pour nous paraît tout à fait anodin, ben pour cette clientèle-là, je m'excuse de parler avec des termes bureaucratiques, là, mais pour cette clientèle-là, ça fait toute la différence, parce que des progrès pas à pas gagnés au fil des ans, au fil des décennies, et de voir tous ces efforts-là disparaître en un claquement de doigts, c'est beaucoup plus rapide de faire disparaître les acquis que de les gagner, ces acquis-là.
Oui, c'est ça. Puis en plus, les centres de jour sont fermés depuis mars 2020. Eux autres, c'est comme leur école. Tu sais, quand M. Legault puis tous les ministres disent c'est important que nos enfants aillent à l'école, c'est important pour leur bien-être d'aller à l'école, de socialiser, ben nos enfants, leur centre de jour du lundi au vendredi, c'est fermé depuis mars 2020 et réouvert 2 semaines à mi-septembre et refermé le 30 septembre. Puis c'est pas réouvert depuis ce temps-là, alors que on crie sur les toits, puis les pédiatres le disent, c'est important. Moi, hier, j'ai un exemple, j'ai eu une prescription d'un psychiatre hier pour mon fils, parce que j'ai demandé une dérogation pour 2 sorties par mois à un organisme adapté à vie pour qu'il fasse des activités de plein air et sociales. Puis ça m'a été refusé, même avec une prescription d'un psychiatre.
Refusé.
J'ai eu ça hier, juste avant de parler à votre journaliste. Puis c'est ça, les parents essayent des prescriptions de psychiatres pour différentes sorties, rendez-vous ou quoi que ce soit, surtout dans leur famille. Puis c'est bâclé, là, ça fonctionne pas non plus. Fait que là, on est en alerte maximale. Fait que là, tout, il n'y a rien qui passe. Fait que moi, je me dis, gardons nos enfants à l'école, mais pourquoi que pour eux c'est fermé puis qu'ils n'ont pas le droit de d'aller à leur centre de jour, c'est pas nécessairement tous des gros groupes. Mais tu sais, en tout cas, moi je comprends pas qu'ils soient autant en captivité que toutes les autres dans la société. Puis aussi, c'est aussi pareil pour la santé mentale. Là. J'aborderai pas ce sujet-là, mais c'est ça, toutes les personnes vulnérables, déficientes intellectuelles, sont laissées pour compte, qui ont été priorisées comme vulnérables dans la première vague puis la deuxième vague. Puis là, pour la vaccination, ben ils n'étaient même pas dans la liste encore de comme clientèle vulnérable. Puis là, M. Lionel Carman a sorti hier qu'il allait les prioriser, mais on ne sait pas encore à quel endroit.
Bon.
Tout ça, ça m'interpelle vraiment. Ben, moi, je ne suis pas la plus misérable. Je me suis battue, je me bats encore. Mais je trouve vraiment que j'ai des histoires d'horreur que j'entends régulièrement. Puis ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Hier soir, encore un parent m'appelait pour sa fille qui ne pouvait pas la faire hospitaliser parce que il n'y a pas assez de personnel dans la RI, puis ça irait au lendemain matin. Mais si tu
manques,
parce que tu manques. C'est ça.
Ah!
Fait que ça aussi, ça m'a vraiment fait très mal dormir cette nuit de voir que on peut pas hospitaliser quelqu'un, il manque de personnel, puis ça va aller demain, tu sais. Non.
Alors que sa fille a besoin d'être hospitalisée, mais ils peuvent pas se permettre de prendre une ressource dans la RI et d'accompagner sa fille à l'hôpital parce qu'il manque de personnel.
Parce qu'elle est seule. Elle était seule.
Oh mon Dieu!
C'est
terrible.
C'est mis à moi, puis ça m'a vraiment jeté à terre. Puis je me disais, en plus, j'ai une conférence demain matin. Elle me dit, parle-en, Louise, c'est important. Moi, ça me...
Oui.
Ça m'a bouleversé tout ça, là. Ça, c'est des exemples, là. Il y en a plein d'autres.
Mais c'est bouleversant, Mme Turcotte, et je suis très contente de pouvoir vous donner la parole aujourd'hui, en espérant en effet que et Lionel Carman et Christian Dubé et tous les autres et François Legault, que les gens soient conscientisés à tout ça. Je trouve que le parallèle que vous faites avec l'école est très important, et c'est vrai qu'on l'a entendu à plusieurs reprises, François Legault nous dire, ben c'est pas vrai que nos enfants, l'école c'est une priorité, nos enfants c'est une priorité, mais il oublie les enfants adultes.
Et, oui, l'autre affaire que je n'ai pas parlé, c'est que les moins de 18 ans qui sont en RI, en résidence intermédiaire, eux, ils ont le droit d'aller chez leurs parents 24 heures parce qu'ils sont une clientèle moins à risque, puis ils vont encore à l'école à temps plein, et eux autres ont le droit d'aller chez leurs parents, mais les plus de 18 ans, ou plutôt ceux de 21 ans et plus, ils n'ont plus d'école, mettons, spécialisée ou quoi que ce soit, eux, ils sont confinés s'ils demeurent dans des RI. Puis je connais des parents qui les ont repris à temps plein chez eux, comme un peu Mme Legault, je crois, qui ont repris leurs enfants à temps plein pendant quasiment 6 mois. Puis ils les ont ramenés en RI, puis là, ils n'ont plus le droit. Mais où sont les critères du CIUS? Je posais la question l'autre fois, c'est que moi, j'ai été considérée comme une aidante naturelle, puis ça fait des années que je suis là, puis je suis toujours là, puis je le sors souvent. Mais ça reste que les parents qui ont pris leurs enfants pendant 6 mois chez eux de mars à septembre, puis qui sont extrêmement dévoués, puis qui se font dire « Votre fils est revenu en RI, puis vous pouvez plus sortir. » Pourquoi sont-ils pas considérés comme des aidants naturels? Je comprends pas leurs critères, je comprends pas leur façon de penser. Puis moi, Sylvain, j'ai opté vraiment pour la dérogation d'aller chercher un... j'ai mis en lumière qu'il avait été hospitalisé 2 fois en 2018. En 2017, on avait arraché. Il buvait des 8 litres d'eau par jour à cause de son anxiété. Il était complètement débalancé, crise d'épilepsie. Puis finalement, quand ils m'ont annoncé ça en mars, il commençait à aller bien, là.
Non.
C'était un an et demi qu'on était dans l'enfer. Puis finalement... Il se met à aller bien, puis vous sortirez plus votre enfant. C'est là que moi, les cheveux m'ont dressé sur la tête, puis je pense que j'ai été entendue cette fois-là. Là. Ça, j'ai eu une dérogation. Mais ils ont tenté de nous l'enlever, la dérogation, avant Noël. Je l'ai pas su. Je l'ai su après Noël. Parce que, puis pourtant, ça fait 10 mois et demi que je fais tout ce qu'il faut. Puis j'ai pas contracté rien. Je fais juste l'essentiel, puis des tours d'auto, des commandes à l'auto, des affaires de même, mais aller marcher en plein air. Mais il va bien, moi je vais bien, puis il a pas contacté, puis je l'emmène à aucune épicerie, aucun magasin, puis ça va bien, mais pourquoi les autres parents ils pourraient pas faire pareil? On n'est pas des, on va vous dire en parenthèse, des cons, on est des personnes responsables, souvent des curateurs en plus. Je comprends vraiment pas la logique de tout ça.
Sylvain, vous diriez, donc votre fils qui a 37 ans, qui est autiste, qui est sourd, je sais que c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus, mais depuis mars 2020, vous diriez que sa condition, son état, son état d'esprit a diminué ou s'est empiré de quel pourcentage? La moitié?
Non, ça va bien, c'est ça, moi je veux dénoncer pour tous les parents. Ça va quand même bien parce que je me suis battue, puis il sort, Sylvain, je suis capable de le sortir puis d'y donner ce qu'il a besoin. Puis je suis en collaboration étroite avec la résidence. J'ai une résidence extraordinaire. C'est la première fois en 37 ans. Ça fait 3 ans qu'il reste là, 3 ans et demi. C'est la première fois en 35 ans que j'ai une résidence qui répond à ses besoins. Ils sont vraiment.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
Puis on a une bonne collaboration et une bonne communication. Puis Sylvain, il va bien parce qu'il sort. Puis c'est ça que je veux exprimer ce matin. La dérogation que j'ai eue, à coup de
bataille,
marché, tout ça, mais ça a marché, puis j'aurais aimé ça que les parents auraient pu en bénéficier tout autant, mais moi, c'est là que ça me déchire, parce que pourquoi ils ne sont pas capables de voir que les parents sont capables de s'occuper de leurs enfants, puis tout ce qu'ils veulent, c'est les sortir chez eux, puis les amener, puis leur donner de la tendresse, puis de l'amour, comme on fait pour nos enfants qui sont normaux. Mais ça, ils n'ont pas droit. C'est important pour les autistes parce que le contact physique, le toucher, tout ça, c'est extrêmement important. C'est vital. Puis c'est ça, ça me vire à l'envers. Mais je connais des parents qui leurs enfants sont soit hospitalisés, ils ont régressé, ils rient plus, sont comme en dépression, problème de comportement, vraiment, tapent dans les murs, toutes des choses qu'ils ne faisaient pas, là.
Je faisais pas avant. Madame Turcotte, je vais croiser les doigts en espérant que votre cri du cœur, qui est extrêmement bien exprimé, qui est très touchant et qui est vraiment bouleversant, que votre cri du cœur, et on a très bien compris que vous le faites pas seulement pour vous, mais au contraire bien plus pour les autres familles, que votre cri du cœur va être entendu par les personnes en autorité et que la situation va pouvoir s'améliorer. Merci beaucoup. Puis je vous le redonne. Rapidement, très rapidement.
Oui, c'est ça. Mon but, c'est pas de taper sur qui que ce soit, c'est que ça s'améliore et qu'on fasse avancer les choses. C'est tout.
Absolument. Je pense qu'on avait bien saisi Louise Turcotte. Donc, vous êtes une ex-infirmière en santé mentale. Vous êtes surtout la maman de Sylvain, 37 ans, sourd et autiste. Et vous vous battez au nom de tous les parents et les proches aidants qui vivent des moments vraiment difficiles depuis mars 2020, surtout face à une incompréhension de la bureaucratie en place. Merci beaucoup, Madame Turcotte.